pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre pour ce dernier hors-série de l'été. Chaque semaine, nous avons revisité la vie et l'œuvre d'un monstre sacré de la littérature. La semaine dernière, nous étions chez l'ami Victor Hugo. Aujourd'hui, nous partons pour un tout autre monde, celui de la Terre du Milieu. Chez Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux, l'inventeur des Hobbits, du Mordor, de la Comté, etc.
Voici l'anneau unique, forgé par Sauron, le Seigneur des Ténèbres. Sauron n'a besoin que de cet anneau pour recouvrir les terres de secondes ténèbres. Il le cherche. Toutes ses pensées sont focalisées sur lui.
Personne ne sait qu'il est ici, n'est-ce pas? Répondez, Gandalf.
Ça, c'est bon. C'est l'adaptation en film. Nous, ici, on fait les livres. Pour en parler, nous passerons tout à l'heure un coup de fil à Maxime Chatham, fou de Tolkien. Et j'ai invité l'un des meilleurs spécialistes de l'écrivain, Vincent Ferré, professeur de littérature comparée. Il est là. Bonjour, Vincent Ferré.
Bonjour, Nicolas Caron.
Vous avez notamment organisé la plus grande exposition jamais conçue sur Tolkien. C'était à la BNF, la Bibliothèque Nationale de France. En octobre dernier, vous aviez eu la gentillesse de nous ouvrir les portes et de nous faire visiter avant que ça ne grouille de monde. Je vous propose que l'on réécoute cette visite justement et on se retrouve juste après.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre. Nicolas Carreau.
Et nous voilà donc à la BNF, à l'orée de l'exposition Tolkien et donc de la Terre du Milieu, avec le co-commissaire de l'exposition, Vincent Ferré, professeur de littérature à l'UPEC, l'Université Paris-Est-Créteil, grand spécialiste de Tolkien. Il est venu plusieurs fois nous parler de l'auteur du Seigneur des Anneaux à Europe 1. Et là, bon là c'est Vincent Ferré-Land, vous avez réalisé un rêve là.
Je suis très content de vous inviter ici pour vous montrer le dispositif qui a été mis en place en deux parties dans cette exposition destinée au grand public et aux amoureux de Tolkien, aux curieux, aux enfants, aux adultes. Donc 1000 mètres carrés pour présenter la Terre du Milieu, mais aussi tout le reste de l'œuvre de Tolkien qui est beaucoup plus varié, beaucoup plus divers qu'on ne le croit souvent en France.
Juste, je précise, c'est la plus grande exposition jamais organisée sur Tolkien, dans le monde.
Oui, tout à fait. La BNF a travaillé en collaboration avec la bibliothèque Bodleian d'Oxford, l'université Marquette aux États-Unis, pour rassembler des pièces qui, pour la plupart, n'avaient jamais été mises côte à côte. Dans 1000 mètres carrés de pièces de Tolkien, de cartes, de manuscrits, de photographies, d'aquarelles, de dessins, et de pièces venues de la BNF et de musées prêteurs qui servent à introduire à l'univers de Tolkien.
D'accord. Donc là, on est au tout début de l'exposition, dans la première pièce. Comment ça s'organise? On va passer d'univers en univers?
Oui. Présenter la Terre du Milieu, c'est se promener dans une série de paysages et d'univers auxquels sont associés des peuples et des histoires. Donc l'exposition commence par une petite présentation de Tolkien, mais assez rapide, parce que c'est l'objet de la seconde partie de l'expo. Et tout de suite, on est mis face aux couvertures, aux projets de couverture de livres dessinés par Tolkien.
Oui, pour le Hobbit. Il faut dire que Tolkien était dessinateur.
Absolument, depuis son enfance. Donc, couverture des livres, Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Il était important de partir des deux œuvres les plus connues, publiées en 1937 et 54-55, pour ensuite montrer aux visiteurs la diversité de cet univers.
Pourquoi ça nous paraît familier? Parce que ça a été reproduit déjà sur des couvertures ou parce que c'était tellement écrit de cette manière-là? Il savait tellement bien décrire qu'on s'est déjà fait les images mentales de Tolkien.
Alors c'est un peu tout ça à la fois, mais en même temps, la Terre du Milieu a une histoire assez étonnante. Quand Le Hobbit paraît en 1937, un livre pour enfants, qui est à l'origine une histoire pour ses enfants, Tolkien invente depuis 20 ans des légendes qui se déroulent dans un monde imaginaire mais qui sont destinées aux adultes. Et donc l'arrivée du Hobbit en Terre du Milieu, c'est vraiment un hasard de l'histoire. Et Tolkien poursuit l'aventure de Bilbo à la demande de son éditeur, mais sans savoir où il va aller.
C'est... Rappelez quand même, Vincent, avant, comment est née la légende du Hobbit et du Seigneur des Anneaux?
Alors, de deux manières différentes. C'est-à-dire que Le Hobbit est l'une des histoires que Tolkien inventait pour ses enfants, pour les endormir le soir. Ils avaient vraiment de la chance. Hein. On montre aussi dans l'exposition les lettres du Père Noël, Rover Random, Monsieur Merveille. Mais Le Hobbit est son histoire pour les enfants la plus connue. Mais il faut imaginer que ce professeur d'Oxford qui travaillait énormément, qui faisait beaucoup d'heures de cours, beaucoup plus que ce qui était attendu, qui publiait des livres, des articles savants, dont les conférences font encore date aujourd'hui et font encore autorité, eh bien, le soir, il se transformait en conteur pour ses enfants et il utilisait toutes ses connaissances en littérature médiévale européenne. Il les injectait dans les histoires pour leur donner plus de consistance, de cohérence, de solidité. L'autre méthode qu'il employait, c'est qu'il dessinait des cartes.
Wow, wow.
Ça, c'est celle, la carte de travail du Seigneur des Anneaux à la fin des années 30. Comme il a expliqué dans ses lettres, quand on se lance dans une si longue histoire, il faut faire une carte. Et on voit comment, à partir de la carte qui comporte plusieurs feuillets, eh bien, se déploie le voyage que Tolkien n'avait pas prévu à l'origine. Puisque dans cet univers, Bilbo est allé en ligne droite, si je puis dire, vers la montagne solitaire. Tandis que les hobbits et leurs compagnons vont chercher leur chemin sous la montagne, dans les forêts des elfes, jusqu'en Mordor. Et c'est l'itinéraire de l'exposition.
Ah d'accord, et c'est très émouvant aussi ce document parce que donc il y a plusieurs feuillets rattachés les uns des autres par du scotch.
Voilà.
C'est comment où est-ce que d'où ça vient? Comment vous avez retrouvé ça?
Alors, les archives Tolkien sont principalement réparties en deux lieux, la bibliothèque Bodleian d'Oxford qui a travaillé donc avec la BNF et c'était le lieu où Tolkien faisait ses recherches. Donc c'était sa deuxième maison. Et une partie des manuscrits vient des États-Unis, de la bibliothèque de l'université Marquette, qui a travaillé avec la BNF, parce que Tolkien, on l'ignore souvent, mais a eu des difficultés financières tout au long de sa vie. Il a eu des difficultés et pour élever sa famille, il corrigeait beaucoup plus de copies que ce qui était attendu, et il a vendu les manuscrits du Seigneur des Anneaux dans les années 50 pour payer des frais médicaux de sa famille. Il l'explique dans des lettres qui ont été publiées.
Et on pense que ça s'est vendu à plusieurs centaines de millions d'exemplaires aujourd'hui ?
Oui, il aurait été le premier surpris. Donc, par exemple, dans cette salle qui est la salle consacrée au Hobbit, on a des manuscrits du Hobbit, des listes de noms propres de personnages, une esquisse de la structure du texte. Et puis, vous voyez, toute cette liste de noms-là, il fait des essais. Il regarde ce qu'il va être porteur comme récit. On reconnaît Dunadan, ça passera dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple, des noms de lieux, des noms de villes. Et on voit bien, ça, c'est l'entrée dans l'atelier du créateur. Ce sont les coulisses de l'œuvre. Et évidemment, ça fait partie des documents qui ne sont pas reproduits dans les livres et qu'on va découvrir pour la première fois pour beaucoup de visiteurs.
Il y a un nuage d'au moins une cinquantaine de noms. Là.
Voilà. Et puis, des documents de travail. Regardez, les hobbits, les mesures en taille hobbit. C'est-à-dire, en gros, combien de kilomètres à pied un hobbit peut marcher par jour.
L'ongle aussi.
Exactement, toutes les mesures.
Parce qu'il faut rappeler que Tolkien a réinventé tout un monde, tout un univers, des langues, des religions, des chants et aussi les mesures.
Des mesures, parce qu'il fallait reconfigurer tout l'univers de la Terre du Milieu à taille de Hobbit.
On souffle un peu, là, on va se caler dans la comté quelques minutes et on revient tout de suite pour continuer notre voyage. Merci Vincent Ferré, à tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, la voie est libre. Nicolas Carreau.
De retour dans La Voix est libre, toujours avec Vincent Ferré pour une balade dans la vie et l'œuvre de Tolkien. On reprend tout de suite notre chemin en Terre du Milieu. Nous avions visité avec vous l'exposition consacrée à Tolkien à la BNF. On se retrouve juste après.
La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix et Livre, toujours perdu dans la Terre du Milieu. Enfin, je dis perdu, non, parce qu'on a un guide, Vincent Ferré, le co-commissaire de l'exposition et grand spécialiste de Tolkien. Là, dans quelle salle on se trouve, Vincent
Ferré ? Alors, avec tous les arbres et les éléments naturels, aucun doute possible, on est sur les terres des elfes, en particulier en Lorienne, mais aussi, on va passer d'abord par chez Elrond, si vous voulez bien, dans ce lieu absolument merveilleux qui s'appelle Rivendell. Fandval en français, et qui donc ce voyage commence par cette aquarelle dessinée par Tolkien en 1937 pour Le Hobbit, mais ce lieu reviendra dans Le Seigneur des Anneaux. C'est vraiment un relais entre l'histoire pour les enfants et le récit très long pour les adultes.
C'est une vallée encaissée au milieu de laquelle coule une rivière.
C'est la dernière maison hospitalière où Elrond accueille les voyageurs, les réconforte et les conseille.
Et ça, on l'a trouvé où ? Ça appartient à la famille ?
Alors, c'est en dépôt à la Bodleian et c'est une illustration qui a été publiée dans Le Hobbit en 1937. Et Christopher Tolkien, donc le troisième fils de J.R.R. Tolkien, a raconté comment, petit garçon, une nuit, il s'est réveillé en pleurs, cherchant son père. Et il l'a retrouvé dans son bureau, penché sur cette aquarelle qu'il était en train de peindre. Et Christopher Tolkien a raconté comment ses pleurs de petit garçon, consolé mais quand même un peu effrayé, se sont mêlés à l'eau de la rivière. Voilà, c'est presque aussi beau que le récit.
Très poétique.
Donc, Elrond, mais aussi le...
Alors, je rappelle qu'il y a des bruits de papier de soie et de plastique parce qu'on est juste avant l'ouverture. Voilà. Et ce sont des documents, on l'a pas assez dit, mais c'est exceptionnel, on n'a jamais vu ça.
Et on ne le reverra jamais. Il faut vraiment bien en profiter. Moi-même, je pense venir à peu près tous les jours pour essayer de...
Alors là, qu'est-ce que c'est que ce tableau, l'arbre des langues? Ça fait un peu peur. Hein. Il y a des flèches, des mots partout.
Donc, comme vous l'avez dit, Tolkien inventait des lieux, des peuples, des histoires, mais aussi des langues. Et ces langues évoluent. De même que le français moderne n'est pas la même chose que l'ancien français et le latin. Tolkien, qui était professeur à Oxford, spécialiste de langue et littérature médiévale, anglaise et européenne plus largement, a inventé une sorte d'histoire des langues, de généalogie, alors d'arbres, parce qu'on part du Valarin, on voit les noms des différents peuples, avec des lieux associés, comme le Beleriand, par exemple, et puis, comme vous le voyez, plein de branches de langues en fonction de la ville ou du lieu où sont parlées ces langues. Et j'aime beaucoup, dans la légende, il est indiqué ces langues sont encore parlées pour les dernières. Par exemple, en Valinor, la Terre des Dieux, on parle encore l'Eldarin.
Ces langues demeurent dans les mémoires et les écrits.
Voilà.
Par exemple, le Golodrin ancien demeure dans les écrits, mais n'est plus parlé.
Tout à fait. Je vous en passerai un exemplaire, si vous voulez.
C'est quand même émouvant. Quand même. C'est la définition de l'écrivain, ce côté démurge, quasiment Dieu, qui a créé un monde, un univers, des langues, une religion, tout.
Vous avez raison de mentionner Dieu, c'est-à-dire que la foi de Tolkien est très discrète dans ses écrits, mais il explique dans une de ses conférences que l'écrivain est une personne qui crée à partir du monde créé par Dieu, ce qu'il appelle la subcréation, la création au second degré. C'est une redistribution des cartes, en fait.
Parce qu'en fait, il recrée aussi à partir des images du Moyen-Âge, des légendes nordiques, et de ce qui existe. Il refait un monde.
Et de sa visite de lieux dans le monde réel qui l'ont inspiré. On sait que telle scène où sa femme, jeune femme, dansait, a été une source d'inspiration pour lui, ou des cavernes.
Là, on a carrément des bijoux d'elfes.
Voilà. Alors, d'elfes, on ne sait pas, mais en tout cas, la BNF a choisi d'inclure dans l'exposition des objets, des artefacts qui permettent de mieux visualiser le monde de Tolkien. Il faut vraiment se rendre compte que Tolkien était un Anglais et que son univers de référence, littérature nordique, la littérature médiévale anglaise, n'est pas celle que l'on connaît le mieux en France. Nos références, c'est plutôt le roi Arthur, par exemple, donc il fallait aider à visualiser. Ben là, vous soulevez un tissu qui masque un des trésors de l'exposition, le livre de Mazarbul, un artefact venu directement de la Terre du Milieu, que Tolkien a fabriqué en espérant l'inclure dans Le Seigneur des Anneaux.
Pour qu'on les décrive un peu, je vous laisse faire.
3 pages de manuscrits, dont plusieurs versions successives sont présentées au mur, et dans la vitrine, la version finale. Des pages déchirées avec du sang, de l'encre rouge, puisque ces pages sont découvertes par les héros dans le récit après une bataille. Donc il y a eu des morts dans la Moria, dans le royaume souterrain de la Moria, et Tolkien voulait que les lecteurs découvrent ce document historique qui viendrait rendre vraisemblable. Mais comme dans Les Liaisons dangereuses, on nous dit au début que les lettres ont été découvertes et qu'elles sont éditées. C'est le même genre de procédé. Sauf que là, donc la BNF a juxtaposé la transcription en un et la traduction en anglais.
Et ça, donc, ce sont les manuscrits originaux. Voilà. C'est la première fois qu'on voit ça en France.
Bah, en tout cas, c'est la première fois qu'on les voit en France. Et c'est la première fois qu'on voit côte à côte plusieurs versions venues des États-Unis, de la bibliothèque bodléiane, puisque Tolkien était extrêmement minutieux dans son travail. Et là, vous avez une ébauche de chacune des pages. On a jusqu'à 3 versions différentes. Et là, ce que vous avez, c'est un autre exemple de l'écriture naine. C'est l'inscription qu'on trouvera finalement sur la tombe de Balin. Et comme vous le voyez, ça a été barré, corrigé, retravaillé.
Et qu'est-il écrit sur la tombe de Balin?
En fait, il est indiqué Balin, fils de Fundin, seigneur de Moria.
Et vous parlez, vous, la langue elfique et la langue des nains?
Ça ne se parle pas vraiment, ça se lit, ça se décode, mais il y a tellement de versions et d'étapes et de variantes que je passe mon temps à oublier tout ce que je sais. Mais heureusement, il y a d'excellents spécialistes en France qui nous ont beaucoup aidés.
Mais en déchiffrant un peu, vous êtes comme un latiniste, vous pouvez...
On va dire oui, Nicolas.
Super, ça.
Europe 1.
14h-15h,
La Voix est livre.
Nicolas Carreau.
Bon, faut qu'on avance, Vincent, parce que là, on se fait la Terre du Milieu en 20 minutes, donc faut qu'on trottine un peu, je suis désolé. Mais là, on vient d'arriver dans une salle consacrée à la magie, c'est ça ?
Absolument. Avec le duo reconstitué, Saruman, Gandalf.
Saruman, le méchant, Gandalf, le gentil, si on...
Sauf qu'on ne le sait pas au début. C'est-à-dire qu'au début du Seigneur des Anneaux, Saruman est une figure de sage, c'est même le supérieur de Gandalf. On ne sait pas trop qui sont ces personnages, sinon des détenteurs de connaissances qu'ils transmettent aux gens qu'ils conseillent. Gandalf a l'air un petit peu anodin au début du Seigneur des Anneaux, il fait des feux d'artifice, tandis que Saruman est quelqu'un de très impressionnant, à la parole rare. Et en fait, au fil du récit, Gandalf va décider de prendre fait et cause pour les héros, tandis que Saruman succombe à la séduction du pouvoir, à la séduction de l'anneau, et décide d'essayer de prendre l'anneau pour lui-même, parce qu'il succombe à l'envie d'utiliser cette arme.
Et là, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les grimoires de Gandalf ou Saruman ?
Pour montrer quelles pouvaient être les représentations médiévales des tours, des magiciens, la Bibliothèque nationale expose des ouvrages magnifiquement enluminés pour aider les lecteurs à visualiser ce que pouvaient être les référents de Tolkien qui passaient son temps dans des bibliothèques ou à faire cours.
Et là, donc, on arrive dans la dernière partie de l'exposition consacrée à Tolkien lui-même. Il y a une belle photo en noir et blanc de Tolkien avec sa pipe et avec son regard là, qui a l'air d'être d'une bienveillance, d'une gentillesse. C'est toujours ce que je me suis dit quand j'ai vu les photos de Tolkien. C'est vrai ou pas ?
C'est exactement l'impression qui se dégage, non seulement des photos, mais de l'interview de la BBC qui est diffusée en partie, et aussi de ses lettres. Tolkien a toujours pris beaucoup de temps, alors qu'il manquait de temps. Il a pris beaucoup de temps pour répondre aux lecteurs qui lui ont écrit sur plusieurs décennies, demandant des précisions sur cet univers, sur ce que devenait tel Hobbit. Et ce plaisir qu'il avait à partager une caractéristique du professeur, de l'éditeur de textes médiévaux et de l'auteur d'histoire qu'il a partagé avec des générations.
Là, il a à peu près 65-70.
Voilà, c'est une photo effectivement où il approche de la fin de sa vie.
Et en face, il est avec une bande de copains. Qu'est-ce que c'est que cette photo magnifique ?
En fait, il était souhaitable dans l'exposition de bien montrer que Tolkien était un homme de son siècle. Il ne vivait pas du tout en Terre du Milieu, il a choisi de donner cette forme à son histoire, mais il était très ancré dans le XXe siècle. Et là, on voit un groupe de 5 amis étudiants à Oxford, avant la guerre, 1911, lorsqu'il arrive à Exeter College, qui est l'un des collèges d'Oxford, là où est passé par exemple William Morris, qui a influencé beaucoup Tolkien dans son style de récit. Et c'est avant le carnage de la Première Guerre mondiale dont Tolkien a réchappé, par le plus grand des hasards. Il est tombé malade. Et c'est la raison pour laquelle les deux photos figurent à côté d'une chronologie qui rappelle les grandes dates de la vie de Tolkien et aussi tous les textes qui ont été publiés après sa mort par son fils, Christopher Tolkien, qui aura très bientôt son anniversaire et 95 ans et qui est une personne qui a encouragé avec beaucoup de bienveillance cette exposition.
Donc le Hobbit, c'est 1937, le Seigneur des Anneaux,
54-55. Et en fait, sans Christopher Tolkien, on pourrait s'arrêter là. Donc à droite figure la vingtaine de livres.
Il y en a beaucoup plus posthume en
fait. Parce que Tolkien écrivait mais publiait peu et il rangeait dans un tiroir. Et son fils Christopher a classé, ordonné et déchiffré. Il y a jusqu'à 7 couches d'écriture sur un manuscrit.
Et pourquoi il publiait si peu ? Parce qu'il n'en était pas satisfait ou parce que... Pourquoi ?
Parce qu'en fait, il écrivait pour lui, pour ses amis, pour son fils. Et il avait l'habitude de se retrouver avec ses amis dans un des pubs d'Oxford. Et il lisait les textes et après, mission accomplie.
Et alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont les plans, les fiches des personnages ?
Dans la dernière salle intitulée « L'œuvre d'une vie », vous avez côte à côte les premiers dessins datant de 1911 et aquarelles et représentations mentales d'univers imaginées par Tolkien. Et puis des documents qui se rapportent au Seigneur des Anneaux. Des notes, par exemple, dans lesquelles Tolkien s'interroge sur le nom à donner au personnage. Donc on apprend que Frodo a failli s'appeler Bingo. On l'a échappé belle quand même. Et puis il se demande ce qu'il va faire du nécromancien. Est-ce que l'anneau va être utile ?
Il y a un plan barré avec des ratures un peu partout. En dessous, il y a des feuilles à quatre en format paysage avec des tableaux très bien faits. C'est quoi ? C'est par personnage ?
Ça, chacun des personnages a telle date.
C'est la chronologie, en fait.
C'est la chronologie, une sorte de tableau permettant de visualiser la chronologie. Et à côté, vous avez ce qui est célèbre chez les fans de Tolkien, c'est-à-dire un petit document dans lequel il a noté les phases de la Lune pour que lorsque tel personnage regarde une lune pleine et qu'un autre regarde une lune pleine, on soit vraiment raccord au niveau des temps. Et ici, vous avez les distances.
Les distances.
franchi en Terre du Milieu par les orques, par les hobbits. Voilà, il fallait absolument... En fait, Le Seigneur des Anneaux, c'est un roman historique, sauf que le monde est imaginaire.
Et là, on arrive à la fin de l'exposition, à la fin de notre voyage, Vincent Ferré. Qu'est-ce qu'on trouve là ?
L'exposition s'achève par un clin d'œil au début et à la naissance de cet univers. Sont présentés des dessins et la couverture du livre des Contes perdus, les récits que Tolkien a dictés à sa femme alors qu'il était convalescent, qu'il était revenu du front malade. Et c'était une manière de montrer que l'œuvre de Tolkien a occupé 60 années de sa vie. Et on souhaitait faire figurer également en bonne place une histoire d'amour entre un homme et une elfe, qui est aussi une image de sa propre relation avec sa femme Edith, puisqu'on sait que la mythologie est née de la vision de sa femme dansant dans une clairière.
Europe 1.
Retour en studio avec Vincent Ferré qui est revenu. On se retrouve dans un instant.
La voix est libre. Nicolas Carreau.
Quelle pitié que Bilbon ne l'ait pas tué quand il en a eu l'occasion.
De la pitié ? Mais c'est la pitié qui a retenu la main de votre oncle. Nombreux sont les vivants qui mériteraient la mort, et les morts qui mériteraient la vie.
Ça, c'est une phrase importante, ça.
Pouvez-vous leur rendre, Frodon ? Alors ne soyez pas trop prompt à dispenser mort et jugement. Même les grands sages ne peuvent connaître toutes les fins. Mon cœur me dit que Gollum a encore un rôle à jouer, en bien ou en mal, avant que cette histoire ne se termine.
Retour dans la voix et livre consacré au grand Tolkien aujourd'hui. On a entendu la belle visite de l'exposition, la plus grande exposition dédiée à Tolkien jamais conçue. C'était à la BNF sous la supervision de Vincent Ferré, professeur de littérature comparée, grand spécialiste de Tolkien. Alors, prof de littérature comparée, comme ça, ça sonne vieux monsieur Ronchon avec une veste en tweed hors d'âge. Détrompez-vous, pour Vincent Ferré, il faut imaginer plutôt un quadrat détendu, jean et basket, amateur de kung-fu au passage, et passionné surtout. Merci d'être revenu en studio,
merci,
Vincent
Nicolas
Ferré.
Carreau.
Pendant l'adaptation du film, pendant le son qu'on entendait, vous avez dit, c'est une phrase importante. De quelle phrase parliez-vous et pourquoi ?
Du conseil que donne Gandalf à Frodo quand il lui dit de ne pas penser qu'il est capable de savoir qui a le droit de vie et de mort. Et ça fait partie des moments où on se dit que quelque chose passe de la position vraiment humaniste de Tolkien, qui lui-même a été soldat pendant la Première Guerre mondiale, qui a traversé la Seconde Guerre mondiale comme étant père de soldat avec un fils, Christopher Tolkien, qui était en formation pour devenir pilote dans la Royal Air Force. Et dans Le Seigneur des Anneaux en particulier, il y a une réflexion sur la force, l'usage de la force. Ça, c'est pas du tout un éloge des scènes de bataille, au contraire. C'est un éloge de la bienveillance et du souci de l'humanité.
Merci de nous avoir ouvert les portes de l'exposition à l'époque et surtout aux auditeurs d'Europe 1 avec un peu d'avance l'hiver dernier. J'y suis retourné ensuite avec un ami fan du Seigneur des Anneaux. Et alors, quel monde ! C'est quoi le bilan de cette exposition en termes de fréquentation ?
Alors, en termes de chiffres, je crois que tout le monde a été agréablement surpris puisqu'il y a eu finalement 135 000 visiteurs. Le précédent record à la BNF était de 80 000. Et je dirais, au-delà des chiffres, ce qui est absolument merveilleux, c'est de voir le nombre de personnes qui ont découvert Tolkien à cette occasion ou découvert des aspects de son œuvre qu'il ou elle ne connaissait pas, son œuvre visuelle par exemple, mais aussi de voir comment la BNF a accueilli pour la première fois des visiteurs qui n'étaient jamais entrés dans cette grande bibliothèque ou même dans une grande bibliothèque publique. Et je dois dire que la lecture du livre d'or, qui est à la fin de l'expo, est vraiment riche d'enseignements et assez bouleversante parce que beaucoup de gens ont dit leur émotion de voir des œuvres, des originaux de Tolkien qui n'avaient jamais quitté les archives parfois, qui étaient directement, qui avaient été touchés de sa main, de celle de ses enfants et de très peu de personnes entre-temps. Et il y avait un rapport émotionnel à ce qui était présenté qui se voit très bien dans le livre d'or. Donc un succès et un grand plaisir évidemment pour tout le monde. Et on peut remercier la Bibliothèque nationale de France d'avoir consacré sa première exposition à un auteur étranger, à J.R.R. Tolkien.
Comment est-ce qu'on explique cette ferveur moderne pour Tolkien ? Merci Peter Jackson, merci les films, où ça va bien au-delà. Vous avez dit, il y a quelque chose de très émotionnel dans le rapport à Tolkien. Ça renvoie souvent à l'adolescence.
Oui.
C'est là où on le découvre, en général, pas toujours.
En fait, il y a eu plusieurs phases dans l'accueil de Tolkien. Il ne faut pas oublier que Le Seigneur des Anneaux, qui sort en 54-55, a un premier succès très important dans les années 60 aux États-Unis. Une première phase de succès avec vraiment la contre-culture américaine qui s'empare de ce roman et en fait un éloge anti-militariste, un éloge en faveur de la fraternité entre les peuples. Et puis des lecteurs célèbres
parlent de Tolkien à cette époque-là. Les Beatles ont failli jouer dans une adaptation. Led Zeppelin crée plusieurs morceaux à partir de l'œuvre de Tolkien. Mm-hmm. Puis
ah
les
bon,
jeux de rôle. Misty
avez...
Mountain Hop and The Battle of Evermore.
Okay.
Et où les questions de Gollum et voilà.
J'adore Led Zeppelin, j'avais jamais fait le rapport.
Ah oui, c'est un exemple parmi d'autres. Et puis les jeux de rôle dans les années 70-80, les jeux de rôle vidéo, mais là c'est une autre frange du lectorat et c'est le moment qu'on a connu en France où dans les années 80, les lecteurs sont surtout des garçons adolescents. Et puis le succès d'Harry Potter a de nouveau fait connaître Tolkien au tournant des années 2000 parce que, je vais vous dire la vérité, la première fois que j'ai lu le premier Harry Potter, j'ai refermé le volume. Tellement c'est proche à la fois de Ursula Le Guin et de Tolkien. Voilà. Donc, je ne dis pas ça pour critiquer Harry Potter, hein, je rassure tous vos auditeurs,
mais
simplement pour dire que l'air de famille est tellement fort que certains lecteurs de Harry Potter sont venus après à Tolkien de nouveau. Les films de Jackson ont joué un rôle, c'est certain, mais Internet également. Et j'aime beaucoup parler en France du rôle joué par les forums de fans
des
et de lecteurs. Mais moi, je travaille tous les jours avec les lecteurs francophones de Tolkien, Tolkien Deal, par exemple, Elbakin, Tolkien Dream, sont des lecteurs absolument formidables dans leur manière de rendre Tolkien accessible. Et je les ai sollicités pour concevoir l'expo Tolkien parce qu'on voulait que ce soit une expo accessible à tout le monde.
C'est ça ce qui est fou et je m'en rends compte en réécoutant notre visite à la BNF, c'est qu'on se prend au jeu vraiment. On finit par parler du monde de la Terre du Milieu comme d'un monde réel et de fait il a pris vie finalement, qu'on le veuille ou non, fiction ou non, il existe parce qu'il est connu par un grand nombre de lecteurs. Je veux dire que certaines personnes connaissent mieux la géographie et l'histoire de la Terre du Milieu que la géographie et l'histoire de la France ou du monde. Ça c'est une grande réussite de Tolkien.
Oui, c'est... Il a créé un univers qui appelle à une plongée, à une immersion. Alors, certains lecteurs vont écrire des suites, certains lecteurs vont dessiner, peindre, certains lecteurs vont lire entre eux les textes de Tolkien ou simplement en parler sur les forums de discussion, j'en parlais, ou lors de rassemblements. En fait, la crédibilité du monde de Tolkien est liée aussi au fait, et on en parlait pendant l'expo, qu'il croyait qu'il fallait prendre au sérieux ses lecteurs de tous âges. Et qu'il fallait donc montrer un univers qui soit vraisemblable, cohérent, même si la dimension merveilleuse est présente et parfois très présente. Évidemment, des personnages de 1 mètre de haut et des elfes aux oreilles pointues, ça ne se croise pas tous les jours. Mais au-delà de ça, on est dans un environnement qui nous appelle et que Tolkien décrit souvent à travers des pauses narratives. Le Seigneur des Anneaux, ça n'est pas seulement un roman d'aventure. C'est un moment où on prend le temps de regarder le paysage par la fenêtre ouverte pendant qu'il pleut. Ça nous parle vraiment. Donc, tout le monde a son Tolkien. Les lecteurs relisent régulièrement tel ou tel texte et privilégient plutôt les récits pour les enfants, plutôt les récits pour les adultes. Certains adorent le Tolkien théoricien sur les contes de fées, par exemple. Il a été également très important.
Mais justement, restez avec nous, Vincent Ferré. Il y en a un autre qui adore Tolkien, c'est Maxime Chattam. Il est au téléphone avec nous. Il va nous parler dans un instant de son admiration pour Tolkien. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
De retour dans La Voix est libre, consacrée au grand Tolkien cette semaine, l'auteur du Seigneur des Anneaux, toujours avec Vincent Ferré, grand spécialiste de l'œuvre. Il est l'heure de passer un coup de fil à un fan, une personnalité qui lit et admire l'auteur du jour. Et pour Tolkien, c'est vous, Vincent Ferré, qui m'avez donné le tuyau. Bonjour Maxime Chattam.
Bonjour.
Alors désolé d'abord, parce que je sais que... On vous dérange en pleine phase d'écriture, merci d'autant plus.
Tout va bien.
Je crois que vous connaissez un petit peu Vincent Ferré, que vous suivez en tout cas ses travaux, ça vous fascine un peu.
J'admire son travail, forcément. Il n'y a pas beaucoup de spécialistes de l'œuvre de Tolkien comme ça, de son calibre au monde et en France particulièrement.
Merci. Quel beau métier, quoi.
Je ne vous le fais pas dire.
Comment vous avez rencontré Tolkien, vous? C'était à quel âge? C'était comment? Est-ce que vous vous en souvenez ou c'est diffus?
Oui, je m'en souviens d'autant plus que ça a été une rencontre marquante pour moi puisqu'elle a été déterminante pour la suite de ma vie et même de ma carrière aujourd'hui. Mm-hmm. J'étais un tout jeune adolescent, je n'aimais pas trop lire. La lecture, c'était pas mon truc. J'en lisais un peu des bouquins parce qu'on me les donnait, on me disait qu'il fallait le faire et tout. Et puis un jour, ma mère, qui elle avait une bibliothèque incroyable, voyant que je m'amusais avec des tas de trucs, des tas de jeux, un peu Donjons et Dragons, etc., m'a dit, mais tu sais, tu devrais lire ce livre-là parce que ça va te plaire. C'était Le Seigneur des Anneaux. Et alors, j'ai eu du mal à rentrer dans le récit qui était très écrit au début. Et puis, un ami plus âgé m'a fait un résumé des 100 premières pages. Il m'a dit, tiens, tu commences à la page, je ne sais plus combien, 105. Et c'est parti. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je ne l'ai plus lâché. Et ça a changé ma vie parce qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que ce monde-là était le monde dans lequel j'avais envie de vivre et que ce n'était pas possible, forcément. Et donc, il fallait que je trouve un moyen. Et les jeux de rôle ont été un palliatif pendant un moment. Mais il a fallu autre chose, plus d'émotions, m'immerger totalement. Et c'est là que j'ai découvert l'écriture et je me suis rendu compte que je pouvais m'inventer des vies dans le monde de Tolkien et puis plus tard même dans le mien, mais en contrôlant ce qui s'y passait.
Et après, vous avez creusé Tolkien, vous avez fait les autres livres emblématiques ou vous êtes resté sur Le Seigneur des Anneaux et vous le gardez?
Non, bah forcément, après, quand on est tombé amoureux du Seigneur des Anneaux, on lit tout, hein, le Silmarillion, le Hobbit, bien sûr, les contes et légendes inachevés. Et puis, gamin, moi, je regardais de l'autre côté de la Manche avec avidité, parce qu'il y avait plein d'autres bouquins de Christopher Tolkien qui étaient parus, mais je ne lisais pas vraiment l'anglais à cette époque-là. Je n'osais pas, en tout cas, je parlais l'anglais. Voilà. Et puis, il m'a fallu du temps pour oser et découvrir, en fait, l'univers fascinant de Tolkien, père et fils, même, on peut dire, parfois. Et je suis encore aujourd'hui, je devais avoir 12-13 ans à l'époque, je suis 30 ans plus tard encore fasciné par ce monde qui reste aujourd'hui pour moi une référence absolue.
Il vous a donné l'autorisation d'une certaine manière de créer des mondes?
Oui, bah, en tout cas c'est ce qui m'a mis sur la piste. Que j'étais pas un gamin malheureux, mais je trouvais pas ma place dans le monde et lire Tolkien m'a permis de me rendre compte que je ne la trouvais pas parce que justement... le monde qui, moi, me faisait fantasmer, quelque part, était un monde d'aventure. C'était Sawyer, c'était les énigmes de Conan Doyle. Et avec Tolkien, je me suis dit, mais en fait, cette vie-là, je ne pourrais jamais la voir. Elle n'existe pas, mais je peux peut-être me l'écrire. Et c'est là, je vous dis, que j'ai commencé à rédiger des histoires et tout. Et assez étonnamment, plus tard, j'ai lu beaucoup de polars, donc je me suis mis à écrire des polars. Mais il m'a fallu du temps avant de m'autoriser à publier un roman qui était plus un roman de fantasy qu'un roman policier. C'est comme ça que j'ai fait ma saga Autre Monde, qui est qui n'a rien à voir, bien sûr, mais qui est une manière pour moi de faire du roman d'aventure, de faire rêver des lecteurs qui, comme moi, ont gardé leur âme d'enfant encore, avec des récits quasiment de cap et d'épée. Et d'ailleurs, le gamin qui est le héros de la saga Autre Monde, qui est l'histoire post-apocalyptique d'une certaine manière, a gardé avec lui comme souvenir de la vie du monde dans lequel on est, l'épée du Seigneur des Anneaux que ses parents lui avaient offert. Et il l'affûte et ça devient son arme. Donc c'était mon clin d'œil à moi, à Tolkien.
Est-ce que vous transmettez cette passion? Est-ce que c'est un livre que vous offrez, les livres de Tolkien, que vous transmettez à vos enfants éventuellement? Je ne sais pas quel âge ils ont. Mais...
Ouais, ils sont encore petits pour l'instant, mais vous en faites pas. Dès qu'ils seront en âge, je vais leur lire Le Hobbit tous les soirs.
Il y a une croix sur le calendrier.
Ouais, c'est prévu. Oui, mais t'es arrivé de l'offrir, bien sûr. Mais vous savez, Le Seigneur des Anneaux est un livre particulier parce que, et c'est ce qui m'a plu et c'est ce qui me plaît encore aujourd'hui et qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de romans qui arrivent à sa cheville, notamment dans le domaine de la fantasy. C'est que c'est un livre qui est d'abord d'une richesse incroyable en termes d'univers, de créativité et surtout de justesse. On voit que c'est la création d'une vie entière. Mmh. Et au-delà de ça, c'est aussi le cas dans l'écriture. C'est un livre qui est très bien écrit, très bien traduit et retraduit récemment. Qui ne lisent pas l'anglais, de pouvoir relire Tolkien aujourd'hui dans une nouvelle traduction, ça c'est fabuleux parce qu'elle est géniale. Ça fait redécouvrir quasiment l'univers. Et donc cette écriture-là, elle, quelque part, elle se mérite. Et tout le monde ne va pas au bout du Seigneur des Anneaux, n'adhère pas. Et donc je l'ai offert, mais parcimonieusement, à des gens que je savais être aptes à entrer dans ce type d'univers-là et dans cette écriture-là.
Et vous leur avez conseillé de commencer à la page 105, à eux aussi, ou pas?
Non, parce que paradoxalement, aujourd'hui, c'est quasiment ce que je préfère, le Seigneur des Anneaux, c'est tout le début de la mise en place. Avant que l'aventure commence, finalement, c'est ce que j'ai aimé. Mais voilà, mais moi, après... Mon drame a été de trouver derrière les héritiers de Tolkien. Et il y en a eu tellement qui se sont autoproclamés ou qui ont été autoproclamés par les éditeurs que c'était difficile. Et permettez-moi juste d'en dire un mot. Il m'a fallu des années avant de trouver sur le seul auteur qui, à ma connaissance, a cette qualité d'écriture et la justesse, la pertinence, la cohérence dans son univers, c'est Tad Williams, le cycle des épées. Okay. Voilà, je le dis à tous les auditeurs qui nous écoutent, si vous êtes fan de Tolkien, notamment par sa belle écriture, je vous invite à lire le cycle des épées, de la fantaisie qui prend son temps, mais qui est bien écrite et qui est formidable.
Parfait. Dernière question, j'aime bien poser la question aux fans du Seigneur des Anneaux. qu'est-ce que vous avez pensé des films, des adaptations? Est-ce que vous faites partie de la catégorie de ceux qui refusent et qui rejettent ou au contraire qui est... tolérant avec cette adaptation.
Oui, mais d'autant plus que je suis un cinéphile fou avec des goûts très très larges et que j'aime à peu près tout, y compris le gros blockbuster américain quand il est amusant et divertissant, et que Le Seigneur des Anneaux est très très bien fait dans sa version longue uniquement et en anglais bien entendu. C'est-à-dire que si vous mettez un des films dans la version courte et en version française, je quitte la pièce. Mais non, j'ai trouvé que les films étaient quand même très réussis. Ils ont un parti pris qui est celui du cinéma de divertissement, mais qui fonctionne bien. Et je m'y suis retrouvé et j'ai beaucoup aimé. Et je peux vous dire que une de mes pièces maîtresses chez moi, au milieu de ma vidéothèque, à côté de ces films, c'est l'affiche du Seigneur des Anneaux dédicacée par tous les acteurs et réalisateurs techniques. Ah ouais, je l'ai longuement cherché. Donc c'est vous dire mon amour pour l'univers Tolkien élargi, y compris au cinéma. Et les musiques, alors là, moi qui écris en musique, la musique d'Howard Shore est fabuleuse.
Vous l'écoutez en écrivant ?
Ouais, énormément. Ah ben, j'aime écrire en musique, je trouve que ça renforce le cocon de concentration. Et donc, c'est musique formidable.
Merci beaucoup Maxime Chattam. On vous retrouve quand en fait ?
Ah, vous me retrouverez à la rentrée en septembre, octobre, non, plutôt en octobre d'ailleurs, avec un roman que je suis donc en train de terminer ces jours-ci, probablement, mais je vais vous dire un truc, ce soir ou demain matin, enfin dans la nuit, on va
génial,
dire.
Parfait. Vous êtes en retard ou pas ? Ou ça va ?
Non, mais vous savez, on n'est jamais en retard, comme dirait dans le film en tout cas, on arrive à l'heure à laquelle on est attentif.
On peut avoir le titre ou c'est pas encore fait ?
A priori, ce sera L'Illusion.
Parfait. Bon, on en reparle en octobre. Merci beaucoup, Maxime
Chattam.
Avec
plaisir. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.
On a eu un scoop, Vincent Ferré. C'est pas le seul auteur qui se nourrit de l'univers de Tolkien. C'est une mine pour l'imagination Tolkien et ça crée des vocations. On a envie de s'amuser en fait. C'est ça quand on lit Tolkien, quand on a envie de faire partie de cette aventure en créant des mondes.
C'est vraiment un très beau témoignage de lecteur et très impressionnant venant de lui. Donc je le remercie aussi pour les paroles encourageantes à propos de la nouvelle traduction par Daniel Lauzon, parce que c'est
que
vrai
vous avez supervisé.
Oui, c'était beaucoup de travail en duo, mais le mérite en revient surtout à Daniel Lauzon, bien sûr. En fait, on voit bien un exemple de quelqu'un, bon, vraiment un écrivain doué, qui, c'est assez particulier, mais c'est quand même révélateur, de l'impulsion vers la création. Tolkien déclenche des vocations, et c'est un exemple à suivre. D'autres écrivains comme Proust ont réfléchi à la manière dont la lecture peut nous donner envie d'écrire à notre tour. Et dans le cas de Tolkien, ce qui est frappant, c'est que c'est multimédiatique. C'est parfois écrire des textes, parfois dessiner, parfois inventer des jeux, parfois créer en costume des histoires à partir. Mais c'est, en tout cas, c'est une invitation à créer qui, effectivement, n'a pas beaucoup d'équivalent dans la littérature du XXe siècle.
Restez avec nous, Vincent Ferré, dans un instant. J'ai encore besoin de vous pour évoquer l'héritage de Tolkien.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre.
Venez avec moi. Pour la mort et la gloire. Pour le Rohan. Pour votre peuple.
Le soleil se lève. Attendez ma venue aux premières lueurs du cinquième jour. À l'aube, regardez à l'est.
Le corps de Helm, mes amis, va retentir dans le gouffre. Une dernière fois, voici venue l'heure de tirer l'épée ensemble.
La Voix est libre continue, toujours avec Vincent Ferré, spécialiste de Tolkien. Je dis Tolkien, mais parfois on dit Tolkien, plutôt à l'anglaise. Tolkien qui est notre écrivain du jour. On a beaucoup parlé du Seigneur des Anneaux et des Hobbits depuis le début de l'émission. C'est normal, c'est quand même son œuvre majeure, mais il n'y a pas que ça. Il y a notamment le Silmarillion qui est une sorte de préquel, Vincent Ferré, en fait, c'est ça ?
Le Silmarillion est le projet que Tolkien a essayé de terminer toute sa vie, qu'il a commencé sous une première forme en 1916-1917, alors qu'il était encore malade après avoir contracté la fièvre dans les tranchées. Et il est mort sans réussir à donner une forme finale à ce récit qui raconte la création du monde, l'apparition des hommes et des elfes. Si vous voulez, Le Seigneur des Anneaux a un arrière-plan, et d'ailleurs il y a beaucoup de références dans Le Seigneur des Anneaux aux histoires qui forment le Silmarillion, mais Tolkien n'a pas cessé d'écrire et de réécrire ces histoires sans leur donner une forme finale. Et il est revenu à son fils, à qui J.R.R. Tolkien a demandé de le publier. Il est revenu à Christopher Tolkien, son troisième fils. Et j'ai une pensée pour lui, puisqu'on est maintenant 6 mois après sa disparition soudaine. Et on doit à Christopher Tolkien d'être l'origine vraiment de la découverte pour nous de la Terre du Milieu dans toute sa diversité. Les récits du Silmarillion, la monumentale histoire de la Terre du Milieu qui nous montre la création de cet univers vague par vague d'écriture, mais aussi les essais de Tolkien, ses lettres. C'est absolument phénoménal, le travail abattu par Christopher Tolkien.
Il a aidé d'ailleurs pendant l'exposition, il était là, il vous a aiguillé.
Sa femme, Bailey Tolkien, a joué un rôle déterminant dans la naissance de l'exposition de la BNF, qu'elle en soit encore remerciée ici. Christopher Tolkien a donné, voilà, il suivait avec intérêt et il comprenait le projet, il était heureux de voir que l'œuvre de son père était replacée dans un cadre beaucoup plus large. Pas seulement dans le genre de la fantasy, parce que beaucoup de lecteurs se disent que ça n'est pas pour eux Harry Potter ou des histoires de guerriers, etc. Tolkien, ça n'est pas que ça. Et là, on a fait dialoguer l'œuvre de Tolkien avec la tradition européenne littéraire, les trésors de la BNF qui sont sortis des archives, le jeu d'échecs de Charlemagne, des manuscrits médiévaux, des œuvres de William Morris également. Et il a été heureux de cet esprit, de cet esprit-là.
On parlait du Silmarillion tout à l'heure et ça me rappelle que quand j'étais ado, ceux qui lisaient le Silmarillion, bon bah c'était ceux qui accédaient à une sorte de d'un autre niveau tolkienien, quoi, qui devenaient un peu connaisseurs. C'était chic en fait de lire le Silmarillion, mais surtout c'est vrai qu'il y a ce moment-là où on quitte le Seigneur des Anneaux, oui, et les Hobbits pour, oui, explorer le reste de l'univers tolkienien qui est gigantesque.
En fait, le Hobbit et le Seigneur des Anneaux sont centrés ou vus à travers les yeux de petits personnages qui sont des relais du lecteur. Ils sont comme nous, ils sont un peu modernes, ils ne sont pas héroïques. Avec le Silmarillion, on passe dans un univers où les elfes jouent un rôle de premier plan, un univers épique, un univers mythologique et légendaire. Ce qui jouait aussi un rôle à l'époque en France, c'est que la traduction était difficile d'accès. Je vais dire ça comme ça, on sait que c'est la moins réussie de toutes les traductions de Tolkien en français. Et la grande nouvelle, c'est que les éditions Bourgois ont chargé Daniel Lauzon de retraduire le Silmarillion. Un Silmarillion à partir d'un texte anglais revu, corrigé d'un certain nombre de scories, comme on l'avait fait pour Le Seigneur des Anneaux. Donc on va avoir accès à un Silmarillion beaucoup plus proche de celui que Christopher Tolkien a édité, assemblé, construit, parfois réécrit, en le disant, à partir des manuscrits de son père qui étaient illisible, parfois fait de 7 ou 8 couches d'écriture, d'une écriture très difficile à déchiffrer, vous l'avez vu pendant l'exposition. Donc c'est un travail titanesque et beaucoup de lecteurs vont découvrir peut-être en français le Silmarillion pour la première fois.
Et on n'arrête pas aussi de redécouvrir Tolkien par d'autres biais. Là, vous m'avez amené un livre en anglais qui s'appelle The Hobbit's Sketchbook d'Alan Lee, oui, et qui va être qui est en cours de traduction pour la France et qui sortira au mois de novembre.
Il sort en novembre chez Bourgois.
C'est magnifique.
Alan Lee a eu envie, après avoir travaillé au Hobbit, la trilogie de Jackson, de revenir au texte du Hobbit. Et donc il propose des aquarelles, mais énormément de croquis montrant sa représentation du récit Le Hobbit par Tolkien. Mais un Hobbit dont les images, en particulier pour les paysages, doivent beaucoup à l'Angleterre où vit Alan Lee. Donc en fait, c'est un livre d'illustrations, d'aquarelles, de croquis, mais Alan Lee commente au fur et à mesure et on entre dans l'atelier du créateur.
C'est pour novembre, en France, on aura l'occasion d'en reparler sans doute. Quel est l'héritage de Tolkien aujourd'hui, Vincent Ferré? Quand on regarde Game of Thrones, par exemple, de George Martin, on se dit que tout est inspiré de l'univers de Tolkien, en le réinventant, mais quand même.
Vous avez raison, c'est un exemple parmi d'autres. Donc, je parlais de Harry Potter tout à l'heure, dont le succès ne se dément pas, Game of Thrones également. Mais la postérité de Tolkien, elle est aussi dans les jeux vidéo, elle est aussi en politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, beaucoup de personnes utilisent le Seigneur des Anneaux ou des personnages de Tolkien pour faire passer un message politique, plutôt contre Trump, par exemple. Pour ou plutôt contre les OGM et les menaces sur l'environnement.
Ah oui.
Il y a une plasticité, mais quand même, Tolkien est surtout convoqué par, si vous voulez, les politiques progressistes ou les militants. On sait que Greenpeace a été inspiré, en partie, le fondateur a été inspiré par Le Seigneur des Anneaux. C'est un exemple parmi d'autres.
Mais dans la fiction aussi, et dans cinéma notamment.
Un point de repère, on a entendu Maxime Chattam, mais beaucoup de créateurs de fantasy actuellement explorent des voies que Tolkien a explorés de manière mineure dans des textes courts, et ils essaient d'autres formes de fantaisie différentes du Seigneur des Anneaux.
Comment ça se passe d'ailleurs pour les ayants droit? On sait par exemple que les ayants droit de Sherlock Holmes sont très très attention, sont un peu sourcilleux dès qu'on essaie de faire quelque chose, ceux de Tintin aussi, etc. Comment ça se passe pour Tolkien? Qui gère ça? Et est-ce qu'on a le droit, par exemple, de faire une suite au Seigneur des Anneaux?
C'est une question importante. En fait, il faut bien distinguer la famille, et en particulier la famille de Christopher Tolkien, dont je parlais tout à l'heure, et le Tolkien Estate, qui est l'organisme qui gère les droits, et avec lequel, évidemment, le dialogue est très étroit dès qu'on veut créer quelque chose à propos de l'œuvre de Tolkien. Ils ont été les interlocuteurs très importants de la Bibliothèque nationale de France. Donc, j'imagine également que le dialogue avec les maisons de production de cinéma ont été intenses. Voilà. Mais c'est un aspect dont je ne m'occupe pas, à vrai dire.
Merci beaucoup, Vincent Ferré, d'avoir pris le temps, une fois de plus, de passer par La Voix est libre.
Merci à vous, Nicolas.
Dans un instant, encore du Tolkien, mais avec ce grand enfant de Victor Dolande. À tout de suite.
Il était une fois.
Il est l'heure de retrouver le conseil littérature jeunesse de Victor Dolande. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Un roman jeunesse de Tolkien, évidemment. Vous avez collé au thème encore. Vous avez choisi un livre qui s'appelle Le fermier Gilles de Ham.
Oui, alors j'aurais pu vous parler, Nicolas, forcément, du Seigneur des Anneaux.
Bah, on vient d'en parler pas mal déjà.
Exactement, je sais que vous en avez parlé. Et surtout, j'ai préféré vous parler d'un roman beaucoup, beaucoup moins connu du grand public, Le fermier Gilles de Ham. Je vous emmène en Angleterre, au temps où les chevaliers combattaient géants et dragons à l'épée. Derrière une colline vit paisiblement le fermier Gilles de Ham. Il habite avec sa femme et son chien Garm, qu'il ne l'a jamais. Sauf que cette vie bien tranquille va être sérieusement malmenée avec l'apparition d'un géant.
C'est-à-dire, s'il se bat contre un géant, c'est plié déjà.
Eh ben non, pas du tout. Car le fermier est extrêmement courageux. Voici justement le passage où le fermier décide justement d'affronter le géant, en extrait lu par Léon.
Soudain, au-dessus du bord, il vit apparaître la figure du géant, pâle dans la lumière de la lune, qui scintillait dans ses gros yeux globuleux. La lune éblouissait le géant et il ne vit pas le fermier. Mais le fermier Gilles le voyait, lui, et la terreur lui fit perdre la tête. Il pressa la détente sans réfléchir, et l'espingole partit avec une détonation renversante. Par chance, elle était pointée plus ou moins sur la grosse et vilaine face du géant. Tous les déchets, les pierres, les os, les tessons de poterie, les bouts de fil de fer et une demi-douzaine de clous volèrent. Par chance, des objets frappèrent le géant. Un morceau de peau lui entra dans l'œil et un gros clou se planta dans son nez.
Surpris, le géant recule et va même rebrousser chemin. Et à cette époque, les nouvelles vont vite. Cet acte de bravoure hisse notre fermier au rang de héros, forcément. Mais les aventures de Gilles de Ham sont très loin d'être terminées. Après le géant, vient un dragon poussé par une faim dévorante qui terrorise le village. Armé d'une légendaire épée qui lui a été offerte par le roi, Gilles de Ham doit repartir vers donc de nouveaux exploits.
On lit ça à partir de quel âge ?
C'est un très joli roman pour entrer dans l'univers du Tolkien, je dirais à partir de 10 ans. Je vous conseille d'accompagner quand même votre enfant dans sa lecture, parce qu'il y a quand même quelques mots bien compliqués, vous serez là pour lui en faire comprendre le sens.
Bon, mais c'est un dictionnaire, attends.
Un dictionnaire ou l'accompagner, parce que ça peut être utile aussi d'en parler avec lui. Mais avant de se plonger dans Le Seigneur des Anneaux, un peu plus tard quand même, c'est un très joli texte pour voir justement s'il accroche avec la fantaisie de Tolkien.
Et on rappelle le titre, Le fermier Gilles de Ham de Tolkien. C'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Merci beaucoup Victor.
Merci Nicolas.
Europe 1.
C'est la fin de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide. Merci à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée derrière la console. Aux doigts d'elfe d'ailleurs. On se retrouve la semaine prochaine. On retrouvera la formule classique de La Voix est libre. Et la rentrée littéraire surtout. On continuera à voyager la semaine prochaine avec l'écrivain Miguel Bonnefoy et la bibliothèque de Tatiana de Ronet. Salut.